16.
Là, j'ai besoin d'un professeur. Et quand on a besoin d'un professeur pour comprendre ce qui se passe à l'international, on se tourne vers mon professeur préféré, Éric Arsenault.
Bon, c'est pas le tien, c'est le tien.
Oui, mais on a tous le même professeur préféré, c'est ce qui donne bien.
Allô, Éric.
Bonjour, Myriam.
Comment vas-tu?
Ça va très bien, je te remercie.
Éric, il faut que tu m'expliques ce qui se passe avec les Kurdes. D'abord, pourquoi est-ce que les Kurdes semblent détestés de tout le monde?
Ben en fait, semble détester tout le monde, mais en particulier, je te dirais, des Turcs. Et là, honnêtement, si on avait deux heures aujourd'hui, il faudrait faire l'histoire du peuple turc, qui est assez particulier, et du peuple kurde en particulier. Mais pour faire une histoire courte pour nos éditeurs ce matin, faut savoir une chose, c'est que les Kurdes, c'est une minorité très présente en Turquie. Ils vivent dans le sud du pays. Ils représentent à peu près 20% de la population. Et les Kurdes, de tout temps, ont toujours eu des revendications autonomistes et, à la limite, indépendantistes. Et ça, ça a toujours beaucoup agacé, à l'époque, l'Empire ottoman, mais aujourd'hui, la Turquie. Dans les années 1980, il y a un mouvement armé, un mouvement politique également qui a vu le jour dans le territoire kurde en Turquie pour revendiquer précisément l'indépendance de cette région-là du pouvoir turc. Et ça a donné lieu, Myriam, à une guerre impitoyable entre le pouvoir turc et les Kurdes qui ont décidé de s'armer avec ce mouvement-là. Et ce à quoi on assiste à l'heure actuelle, dans un certain sens, c'est la suite de cette espèce d'antagonisme historique qui a existé entre la Turquie et les Kurdes, qui en passant sont, oui, très présents en Turquie, mais sont également très présents dans le nord de la Syrie. Il y en a une partie du peuple kurde également en Irak et en Iran. Bref, ce peuple-là qui n'a pas de pays, c'est un peuple apatride, c'est d'ailleurs l'un des seuls peuples sans avoir son État dans le monde. Actuellement, ils font face à une offensive de tous les instants, oui, de certains régimes voisins, mais en particulier de la Turquie, qui craint beaucoup que les Kurdes de Syrie ne contaminent ceux de Turquie puis les incitent à déclarer leur indépendance.
Parce que toute cette chicane-là, dont les Turcs ont commencé à bombarder les Kurdes parce que les Américains se sont retirés de Syrie. Donald Trump avait promis qu'il cesserait les guerres coûteuses dans lesquelles ils étaient engagés, mais les Kurdes étaient les alliés des Américains contre l'État islamique, si j'ai bien compris.
Exactement. Et là, tu viens de soulever un des points essentiels, et c'est d'ailleurs un peu paradoxal de la guerre civile qui a cours actuellement en Syrie, c'est que les Turcs sont les alliés des Américains. Ils sont tous les deux membres de l'OTAN. En principe, ils devraient, militairement parlant, être sur la même longueur d'onde. Or, dans le cas de la Syrie, c'est pas du tout le cas, parce que les Turcs ont les Kurdes comme ennemis. Or, en Syrie, les Kurdes ont été un précieux allié des Américains dans la lutte contre l'État islamique. Myriam, on ne se racontera pas d'histoire ce matin. Ce sont les Kurdes sur le terrain qui ont fait le sale job face à l'État islamique, face aux djihadistes. Les Américains n'ont pas voulu envoyer des troupes au sol. Ils sont contentés d'appuyer par la voie des airs, et ça a été un appui important, mais appuyés par soutien aérien, les Kurdes. Mais ce sont les Kurdes au sol qui ont fait tout le travail, qui ont fait toute la job, qui ont débarrassé la Syrie et l'Irak, parce que les Kurdes sont également présents du côté de l'Irak, qui ont débarrassé ces territoires-là des djihadistes, de l'État islamique, qui ont mis fin à ce fameux califat-là. Et les Américains ont toujours vu les Kurdes comme étant, malgré les relations difficiles avec la Turquie, ont toujours vu les Kurdes comme un allié précieux. Et là, d'un simple coup de téléphone, la semaine dernière, Donald Trump, avec son homologue turc, le président Erdogan, a décidé finalement de retirer les troupes américaines qui étaient présentes en soutien aux Kurdes dans le nord de la Syrie. C'était des forces spéciales. Et dans un certain sens, en annonçant ça, c'est comme s'il avait donné le feu vert à Erdogan pour mater les Kurdes de Syrie qu'il n'y a pas dans son cœur.
Pourquoi les Kurdes étaient si fâchés contre l'État islamique qu'ils ont risqué leur vie pour chasser ce califat-là? Quel était l'enjeu pour les Kurdes?
Mais je te dirais que c'est une question de survie, parce que au début de la guerre civile en Syrie, en 2011, les Kurdes ont été plutôt neutres. Ils appuyaient pas la rébellion, ils appuyaient pas le régime de Bachar al-Assad, sauf que à partir du moment où les djihadistes et l'État islamique est apparu dans le décor et qu'ils ont commencé à gruger et à morceler le territoire syrien et le territoire irakien, progressivement, ils sont mis à empiéter sur les zones peuplées par les Kurdes. Et dans un réflexe d'autodéfense, dans un certain sens, les Kurdes ont à ce moment-là décidé de prendre les armes, non pas tant contre Bachar al-Assad ou en soutien à la rébellion, mais pour se protéger contre les djihadistes. Et je pense qu'il y a une chose importante dans l'équation, Myriam, c'est que les Kurdes, dans un certain sens, suivent, ils sont musulmans, mais suivent un islam qui est très tolérant, qui est très modéré. Ah. Alors que l'État islamique et les djihadistes, on le sait, ce sont des fanatiques, ce sont des purs et durs, ils sont sanguinaires. Donc, dans un certain sens, pour les Kurdes, faire échec à la progression de l'État islamique, c'était pour eux carrément une question de survie.
Donc, on doit une fière chandelle aux Kurdes. L'Occident doit une fière chandelle aux Kurdes qui ont fait la job contre le califat de l'État islamique. Puis là, on les laisse tomber et du coup, leur ennemi séculaire vient leur fesser dessus à tour de bras.
C'est un excellent résumé que tu viens faire de la situation, et ne serait-ce que dans les milieux kurdes, mais également aux États-Unis et au sein des alliés, notamment dans l'OTAN des États-Unis, on estime que la décision dans l'OTAN de retirer les troupes américaines du nord de Syrie et dans un certain sens de laisser la porte ouverte à Erdogan pour casser du sucre sur les Kurdes dans ce coin-là, c'est carrément un coup de poignard dans le dos que les Américains viennent d'accéder à leurs alliés kurdes. Et d'ailleurs, au sein de l'administration américaine, au sein du Pentagone, le ministère américain de la Défense, on était opposés. D'emblée, tu l'as dit au début, Donald Trump, lui, c'est un isolationniste. Lui, c'est America First. Lui, tout ce qu'il veut, c'est se libérer de ces guerres stupides et absurdes et coûteuses. L'Afghanistan en est un bel exemple. La Syrie en est un autre. Et ça fait déjà un an ou deux que Donald Trump menace de retirer les troupes américaines de Syrie. Mais à chaque fois, on a dit au Pentagone, on a dit au sein de son administration, non, il faut pas faire ça, parce que si on fait ça, on fait le jeu non seulement de l'État islamique, mais on fait le jeu des Turcs et on fait le jeu des Russes et de Bachar al-Assad par alliés interposés. Sauf que Donald Trump n'en a que cure. Lui, ce qu'il veut, il y a des élections qui s'en viennent aux États-Unis. Lui, il a promis de retirer les États-Unis des guerres coûteuses et stupides et absurdes. Alors, il y a des enjeux de politique intérieure aux États-Unis derrière cette décision-là. Et malheureusement, ça risque d'avoir des conséquences énormes, non seulement pour le prestige international des États-Unis, pour leur influence dans cette région-là, mais ça pourrait également permettre à l'État islamique de renaître de ses cendres, parce que les Kurdes, actuellement, ont dans leur prison des milliers et des milliers de combattants djihadistes, et s'ils sont occupés à se défendre contre les Turcs, ben évidemment, on pense que ces prisonniers-là pourraient éventuellement prendre le large et revenir hanter les Américains, comme ça l'a déjà été il y a quelques années.
Je veux bien qu'on diabolise Donald Trump, mais comment ça se fait que les autres alliés n'ont pas remplacé les Américains sur place?
Ça, c'est une excellente question. Et la raison, je pense, en est bien simple, c'est qu'ils en ont tout simplement pas les moyens. Seuls les Américains disposent des moyens militaires nécessaires pour réussir à faire un poids dans cette région-là. Mais, et on l'a souvent vu dans le passé, face aux menaces de retrait américain, que ce soit en Afghanistan ou ailleurs ou dans d'autres régions, on s'est toujours un peu trouvé mal pris, et notamment au sein de l'OTAN, en disant, oui, mais les Américains sont plus là. Qui prend le relais? Qui prend le relais? Qui a les moyens stratégiques, les moyens militaires en termes de logistique pour réussir à faire le travail sur place? Rappelons-nous que le Canada a des troupes spéciales déployées également dans cette région-là, ou en tout cas, elle l'était jusqu'à tout récemment, mais il n'y a personne d'autre pour remplacer les Américains, en tout cas, au sein des forces occidentales de l'OTAN.
Là, Eric, tu vas trouver que je sors du champ gauche, mais c'est une question que je me pose régulièrement avec toute l'ampleur que la Chine et la place que la Chine est en train de prendre dans notre monde. On dit que ça va devenir la plus grande puissance économique à travers les prochaines années et puissance politique également. Est-ce que, parce que ça a été longtemps les États-Unis, puis on voit encore l'impact qu'ils ont, s'ils se retirent, le chaos reprend. Qu'est-ce qui va arriver? Toi, tu vois quoi de ton œil d'observateur et d'analyste dans tout ça quand la Chine va réellement devenir cette puissance-là dans des conflits comme celui-ci?
Là, je te dirais, Pascal, plusieurs théories qui s'affrontent à ce sujet-là. L'une de celles-ci veut que la domination actuelle des États-Unis, sur le plan économique, de plus en plus, elle est contestée, mais sur le plan militaire et sur le plan technologique, puis tout ça, elle est telle que ça va prendre encore beaucoup de temps à la Chine avant de le rejoindre. Il y en a d'autres qui, au contraire, pensent que la Chine est en train carrément de ravir aux Américains cette place de numéro un à travers le monde, est en train de faire sa place. Économiquement, on le voit, c'est devenu un géant, mais technologiquement, technologiquement parlant également. Les Américains sont toujours fait fort de dire, ah, les Chinois, ils ne font que copier ce que l'on fait. Ils ne sont pas capables de le faire eux-mêmes. Mais les Chinois ont fait des bonds de géant en termes de capacité technologique. Et dans ce sens-là, alors ça vaut pour ça. Sur le champ diplomatique, les Chinois sont de plus en plus présents. Ils sont sur le continent africain maintenant. Les nouvelles routes de la soie, leur grand projet de libre-échange qui vise à réunir l'Europe et l'Asie, de plus en plus, les Chinois prennent de place. Maintenant, si tu me demandais de te dire en quelle année les Chinois vont devenir numéro un, impossible à prédire, mais carrément, ils sont devenus un concurrent important pour les États-Unis et sont toujours dans un certain sens en montée, même si leur progression là tend à stagner depuis un certain temps.
Parce qu'ils n'ont pas les mêmes valeurs occidentales en termes de gestion de conflits, tu sais, que les États-Unis, qu'on peut quand même avoir des façons de penser qui sont différentes de celles du Canada, mais la Chine, là-dedans, ça va avoir l'air de quoi dans quelques années? Moi, c'est vraiment quelque chose...
On est carrément dans un autre monde, là, carrément. Et on le voit, depuis l'accession au pouvoir en Chine du président Xi Jinping, il a resserré l'étau du Parti communiste chinois sur le pays. Mmh. La répression envers ses opposants politiques est devenue de plus en plus forte. Les médias sont de plus en plus contrôlés. On présente souvent Xi Jinping, l'actuel leader chinois, comme étant le nouveau Mao Zedong. Ça donne une petite idée. Et notamment, l'année dernière, il y a 2 ans, il a réussi à faire abolir par le Parlement chinois, qui de toute façon est à la solde du Parti communiste chinois, mais faire abolir la règle qui interdisait à un président de solliciter plus de 2 mandats de 5 ans. Il n'y a plus de limite de mandat. Donc, théoriquement, Xi Jinping peut être au pouvoir jusqu'à sa mort, comme Mao l'a été avant lui.
Et comme Poutine se l'est octroyé également. Ouf.
Exactement. On est dans un club là, d'autocrates qui en même très large, en effet. Et on pourrait ajouter dans cette catégorie-là le président turc Erdogan, dont on parle régulièrement.
Xi Jinping, là, il a récemment dit que ceux qui veulent diviser la Chine auraient le corps brisé et les os fracturés.
Oh, ça donne pas trop le goût, ça.
C'est pas nous allons réprimer.
Non, c'est ça. Là.
C'est une menace physique directe.
Oui.
Mais... Tout à fait. Et on le voit avec Taïwan notamment, mais on le voit également avec Hong Kong. Regarde la ligne dure. Les Chinois sont pas encore intervenus directement à Hong Kong. Ils laissent la job aux autorités inféodées, évidemment, aux communistes chinois, mais qui sont présents du côté d'Hong Kong. Mais on sent de plus en plus que les Chinois sont irrités par tout ce qui s'appelle contestation. Regarde ce qui est arrivé ici au Canada avec l'arrestation de l'une des dirigeantes de Huawei. Mm-hmm. Aussitôt, on a tapé sur les doigts du Canada. D'autres pays ont eu à faire les frais de ça. Les Chinois, de plus en plus, sont susceptibles. Tout ce qui, dans un certain sens, écorche leur image ou pourrait, dans une certaine manière, ternir leur puissance ou leur montée, ils sont sans pitié, littéralement.
Merci beaucoup, Éric Arsenault, pour cette leçon.
C'est toujours un plaisir. Bonne journée à tous.
Au revoir. Merci d'avoir été là. Éric Arsenault est professeur d'actualité au Cégep de Jonquière.